À voix nue. Cette semaine, France Culture rend hommage à Tommy Ungerer, récemment disparu. En 2012, Martin Kénéen s'entretenait avec le dessinateur. Ce soir, l'horlogerie des femmes.
Tommy Ungerer n'est pas seulement l'auteur de best-sellers pour enfants et de campagnes publicitaires hilarantes. En bon alchimiste, il bricole depuis les années 60 son œuvre au noir. Des albums de dessins érotiques, tels le Fornicon en 1969, une botanique érotique pour le magazine américain Penthouse, ou encore SM, Les anges gardiens de l'enfer, publié en 1986. On pense à Rabelais et à Baudelaire, Satan trismégiste, ce savant chimiste qui vaporise le riche métal de notre volonté. Notre entretien d'aujourd'hui sera donc consacré aux tentations de ce diable de Tommy et à leur étrange mécanique. Tommy Ungerer, vous avez connu l'une de vos premières grandes émotions esthétiques devant le retable Dissenheim de Matthias Grunewald, conservé à Colmar, et qui représente la tentation de Saint-Antoine. Auteur de nombreux ouvrages de dessins érotiques, je le disais, vous sentez-vous comme Saint-Antoine qui aurait succombé au charme du démon ?
Non, je ne pense que justement que quand on part à la recherche de l'érotisme, on ne succombe jamais. Mais il faut voir bien que le musée Unterlin était la station d'autobus que je prenais tous les jours pour aller à l'école, au lycée. Donc déjà pendant la guerre aussi, Matthias Grunewald Schule. Et quand il pleuvait, j'allais dans le musée et je contemplais ce retable qui pour moi est sans doute la plus grande influence et l'œuvre la plus étonnante. Cette tentation de Saint-Antoine, c'est vraiment une scène inouïe. Mais là vraiment, j'en ai fait une deuxième variante où j'ai remplacé les démons par des belles femmes, parce que moi je ne vois pas comment est-ce qu'on peut être tenté par d'horribles démons. Alors moi à ce moment-là, je préfère mes succubes. Et alors j'ai fait une très grande variation, n'est-ce pas, justement, bon, pas en copiant le dessin, mais en utilisant pratiquement le même tableau, mais en remplaçant simplement les monstres par des femmes plutôt juteuses.
Vous avez résisté, Tommy Ungerer,
à ces succubes. Non, moi je ne résiste pas aux succubes, au contraire, je les cultive, hein. Je suis comme un jardinier de succubes. Il faut d'abord voir que d'où vient cette espèce d'obsession, je dirais, avec l'érotisme. Ça a été très progressif dans ma vie parce que j'ai quand même été élevé de façon très puritaine et très 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 protestante, mon Dieu, n'est-ce pas? On appelait tout ça des mauvais instincts. Ça s'appelait les mauvais instincts. C'était absolument inconcevable. Enfin, j'étais vraiment aussi jamais tout petit, n'est-ce pas? J'habitais chez mon oncle qui était pasteur, donc de façon strictement rigoureuse. Et même la nuit, il venait dans ma chambre pour voler mes dessins et les détruire. Parce que je faisais déjà des caricatures et comme Dieu a créé l'homme à son image, hélas. Non, heureusement qu'il a aussi fait la femme. Mais quand même, simplement parce qu'il disait que ses dessins c'était un péché, parce que de faire une caricature c'était se moquer de Dieu. Donc j'étais vraiment élevé dans un milieu puritain et finalement avec l'âge, je me suis vraiment développé cette espèce de rébellion. C'est-à-dire que là aussi, c'est la recherche d'une liberté. C'est une recherche de liberté basée sur la morale. En fin de compte, on a le droit de tout faire tant qu'on ne fait pas de tort ou de mal à quelqu'un. Là aussi, j'ai toujours cherché aussi un petit peu des situations extrêmes. N'est-ce pas, pour moi, il me faut le défi. Je pense que chaque femme aussi, j'utilise le mot, chaque femme, en fin de compte, c'est un safari. Et moi, ce qui m'a toujours, surtout, intéressé, c'est justement de libérer en fin de compte un peu les gens en mettant en scène leurs fantaisies. Moi, ce qui m'intéresse quand je rencontre une personne, c'est de savoir quelles sont tes fantaisies, quelles sont les choses. Et alors là, c'est vraiment aussi incroyable tout ce qui peut arriver. On se rend pas compte que comme les gens sont frustrés, comme ils ont peur de leurs fantasmes au lieu de les mettre en jeu. Je parle d'il y a longtemps, de nos jours. Maintenant, je peux dire que j'ai vraiment contribué à cette espèce de libération de la sexualité. Et une chose très intéressante, parce que les éditions Tachène ont sorti cet énorme volume de 2 ou 3 kilos sur toute mon œuvre érotique, Et quand je signe, fais des séances de signature, eh ben, il y avait plus de femmes que d'hommes, avec ce livre, ce qui aurait été impensable il y a des années. Et quand on parle de mes grenouilles érotiques, ben, et maintenant on vient me dire, vous savez, oh, j'avais 13 ans, j'ai 14 ans, ou j'ai économisé pour acheter ces grenouilles érotiques. Donc maintenant, l'attitude vis-à-vis de l'érotisme et de la sexualité est vraiment libérée.
Alors, avant de parler de vos grenouilles, Tommy Ungerer, je voudrais qu'on revienne à ces femmes et peut-être à une femme. Quelle femme vous a la première mis sur des charbons ardents? Quelle femme aurait pu être votre muse érotique?
C'est vraiment tout à fait relatif, mais là j'ai sorti tout un album sur cette personne qui s'appelle Totem Pole. C'est une jeune fille que j'avais rencontrée. Et elle cherchait du travail, je lui ai dit passez donc au studio, et elle est venue au studio, et elle, au moins, elle a eu le courage de dire ce qu'elle avait envie. Elle avait lu un ouvrage érotique, The Man and His Maid, je crois quelque chose, un classique érotique, et elle a dit, je voudrais être votre esclave. Alors voilà, alors j'ai dit, bon, venez aménager. Alors elle, vraiment, elle était très jolie, elle a fini sur la couverture de Penthouse, aussi, une fois. Mais elle avait vraiment un visage angélique. Et lorsqu'elle était, elle adorait être attachée, par exemple. Et là, ça lui donnait vraiment, c'était presque une transposition, presque une élation, presque de voir la beauté de ce visage. Et je dois dire que j'ai toujours quand même eu des tendances personnelles pour le cuir. J'adore le cuir, mais il faut qu'il soit noir. Et les bas. Donc il y a quand même, on est tous un peu fétichistes sur les bords. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous savez, à fur et à mesure qu'on met en scène ces fantaisies, on se débarrasse aussi dans un sens de l'aspect obsessionnel. C'est-à-dire, bon, ben, on l'a fait, je l'ai essayé, et puis bon, c'est quand même pas mal. Et puis c'est l'aventure, c'est aussi l'aventure, c'est-à-dire que vraiment chaque personne a quelque chose que l'autre n'a pas, dans le fond, chaque être humain est complémentaire, et dans la sexualité c'est un peu la même chose. Mais j'aime bien mettre les choses en scène, et alors il y a aussi l'improvisation. Mais je pense que l'érotisme, c'est vraiment ce qui nous différencie des animaux, c'est quand même l'érotisme. Et là aussi, l'érotisme c'est tout à fait relatif, n'est-ce pas? Qu'est-ce que quand on voit de nos jours une Vénus de Milo, ce n'est pas exactement érotique. De toute façon, on lui a coupé les bras pour l'empêcher de se masturber. Enfin bon.
Tommy Ungerer, quand et comment avez-vous découvert que votre mère avait inspiré à votre père Théodore des images pour le moins osées?
Ah, très tard, n'est-ce pas? Mon père avait un peu vraiment tous les talents. C'était un homme extraordinaire. Dans la famille, on fabriquait les horloges astronomiques. C'est avec Schwilger que mes ancêtres ont fait les mécanismes de l'horloge astronomique actuelle de Strasbourg, ce qui explique ma fascination, ma passion pour les mécanismes et les inventions aussi. Je suis passionné de mécanique, c'est dans le sang. Et mon père, en plus de ça, était un dessinateur, illustrateur de premier ordre et aussi un historien et poète, enfin tout. Quand je vois par exemple la correspondance entre ma mère et mon père, souvent ils s'écrivaient simplement des lettres en alexandrin. Ma mère aussi avait un talent incroyable.
Vous avez découvert, Tommy Ungerer, que votre père dessinait votre mère?
J'ai vraiment découvert toutes ces choses-là, vraiment l'œuvre de mon père. Je l'ai découvert à la mort de ma mère. Je regardais dans les boîtes. Bon, on avait quand même déjà des œuvres de mon père au mur, donc je le savais.
Il faut rappeler que votre père est mort quand vous aviez 3 ans et demi, et votre mère?
Exactement. Bon, j'ai perdu mon père à 3 ans et demi. Et là aussi, une chose vraiment assez curieuse, on se pose quand même des questions. Est-ce que mon père est mort en me laissant tous ses talents? J'ai vraiment l'impression que j'ai hérité tous ses, parce que c'était un multitalent, n'est-ce pas? Et il m'a laissé tout ça. Et sur bien des choses, il était bien supérieur à moi dans le dessin et dans l'illustration. Déjà tout jeune.
Et déjà, quand vous découvrez ces dessins, en particulier Tommy Ungerer, les dessins de votre père, il y a notamment des représentations de votre mère à l'anguille, mais il y a aussi des petites caricatures, des petits dessins de femmes dominatrices.
Non, pas vraiment dominatrices. Mon père était obsédé par la beauté. Le culte de mon père, c'était la beauté. Et ma mère avait vraiment la réputation d'être là. La plus belle femme de Strasbourg, on le disait. Et c'était aussi une source d'anxiété pour ma mère, n'est-ce pas, de qu'est-ce qui va arriver lorsque je ne serai plus aussi belle? Et mon père, très curieusement, comme moi, n'aimait pas les grosses poitrines. Et j'ai retrouvé comme ça une vieille revue, comme ça, érotique. Et sur chaque photo, à la gouache, il avait retouché les seins pour qu'ils soient plus petits. Mais ça, je l'ai découvert quand j'étais encore jeune, derrière les rayons de la bibliothèque. Ça, c'est autre chose. Mais l'œuvre de mon père, vraiment, en soi, ça, je l'ai découvert. J'ai découvert tout ça bien plus tard, tout autant que la correspondance de ma mère, leur correspondance. Parce que ma mère faisait toujours un brouillon pour chaque lettre qu'elle gardait avec la réponse. Alors là, écoutez, c'est souvent à se tordre les côtes, parce que ma mère aussi avait des marottes, n'est-ce pas? Et elle adorait Nixon. J'ai retrouvé une lettre qu'elle a écrite à Nixon, et qui commence comme ça. « Fier et galant chevalier !» Alors, sa bête noire, vraiment, son obsession, c'était le pape, n'est-ce pas? Vraiment, famille protestante, les catholiques vont aux enfers, ça c'est le compte est réglé. Et alors les diatribes qu'elle écrivait au pape, et tout cela solidement échafaudé avec des passages de la Bible et tout ça, français. Je dois dire que ça ne manque pas d'originalité. Et je dois dire que la plus grande partie de mes neveux et de mes nièces sont tous dans un domaine artistique ou dans un domaine graphique où il y a là une ligne sanguine, vraiment, c'est prononcé.
À propos d'héritage. Après Sex Maniac, paru en 1968, avec le Fornicon, vous représentez, Tommy Ungerer, une sexualité féminine mécanisée, faite de sex toys, comme on dit aujourd'hui, oui, savants, compliqués. Oui. Est-ce que vous dessinez
aussi, comme je dis, en sculpture, n'est-ce pas? Il y en a qui fonctionnent sur les Barbie dolls.
Avec
donc,
des mannequins,
on retrouve mon sens de la mécanique.
Mais alors,
c'est justement ça, c'est la mécanisation du sexe, parce que...
Justement, cette mécanisation du sexe, Tommy Ungerer, c'est pour la dénoncer, cette mécanisation, ou au contraire, vous le disiez, vous êtes descendant d'une lignée d'horlogers. Est-ce qu'il y a une fascination pour l'horlogerie des femmes?
Je dirais que dans le cas du d'homme, c'est plutôt presque comme une constatation médicale. C'est presque un livre médical. On a l'impression de, parce que je suis aussi fasciné de médecine. Toute ma bibliothèque, elle est maintenant au musée, mais il y a toute une section médicale. Par exemple, j'ai les vieux numéros de la revue médicale de Paris avec l'utilisation des premiers daguerreotypes. Et je me souviens très bien, par exemple, la conférence de Carnot sur le torticolis congénital, n'est-ce pas?
De la littérature. Mais votre Fornicon, Tommy, c'est les prescriptions du docteur Ungerer pour les femmes?
Non, ce n'est pas les prescriptions, c'est du ersatz, n'est-ce pas? Nous vivons dans une société du ersatz. Nous vivons dans une société de consommation. On s'imagine qu'on peut tout acheter et que même le plaisir, c'est un produit de consommation. On voit ça avec les sex shops, alors qu'on a besoin que de la veuve poignée, en fin de compte, qui se traduit très joliment en anglais, the fist widow. Je fais souvent ça, je prends des expressions dans une langue, je les traduis dans l'autre, et puis ça se traduit très bien aussi en allemand, Faust, vite fait. Je parle donc de la masturbation, qui en fin de compte, est la plus grande libération. Parce que là, il n'y a pas de danger, et il n'y a pas de femme qui risque, votre poignet ne va jamais tomber amoureux.
Il n'y a pas seulement chez vous, Tommy Ungerer, un érotisme mécanisé avec ce côté clinique. Il y a aussi un érotisme, je voudrais qu'on parle de votre érotisme, qu'on pourrait qualifier de joueur, par exemple, dans vos grenouillades, qui est donc un Kamasutra interprété par des batraciens. Il y a aussi vos affiches, comme celle célèbre pour Turc à Boston, où vous dessinez une femme nue en train de traire une licorne aux yeux écarquillés. D'où vous vient cette vision? Mais ça vous vient d'où cette vision rieuse?
Je veux rajouter qu'à Moscou, j'avais une exposition au Palais de la Culture, je ne sais pas, un truc comme ça. Et j'ai fait une affiche qui a été interdite en Russie par les popes, par l'Église orthodoxe. Alors maintenant, pour répondre à la question...
Voilà, c'est cet érotisme joueur, rieur, lumineux, ça vous vient d'où?
Mais je ne sais pas, c'est ma façon d'être. Je suis ludique de nature. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai collectionné pendant des années des jouets que j'ai aussi donné maintenant à la ville de Strasbourg. C'est une collection déjà assez sensationnelle. C'est cette façon de jouer. Mais pour moi, chaque livre est quand même toujours complètement différent. Quand j'ai fait Les Grenouilles, c'est une satire, n'est-ce pas? En Amérique, j'ai remarqué que plus les gens ont des livres de cuisine et moins ils font une bonne cuisine. Et alors, à l'époque, justement, dans les années 60, ça a été l'explosion sexuelle, de libération sexuelle aussi, dans un sens. Et un livre après l'autre, comment faire ça? Comment faire ça? Alors je me suis dit, voilà, ben, je vais prendre mes grenouilles, parce que quand même, les grenouilles, elles ont des belles jambes, hein, elles sont quand même un peu sexy. Et j'ai simplement fait ce volume du Kama Sutra, où j'ai mis les grenouilles dans toutes les position imaginable. Mais ça, une fois que les grenouilles sont faites, je passe à autre chose. Comme dit dans Totem Pole, alors là, je suis très influencé par Klimt et Schiele. Et là, c'est du beau dessin, à ce moment-là. C'est du grand dessin. C'est vraiment fait avec l'affection, je dirais. L'affection de la courbe. Le corps humain, c'est quand même un miracle. C'est une chose incroyable. Et le corps humain, c'est une mécanique, en fin de compte. C'est pour ça que je suis passionné aussi d'anatomie. Quand je n'ai rien à faire, je travaille mon anatomie.
Mais alors les albums dont vous parlez à l'instant, inspirés de Klimt, de Schiele, comme Totem Pole, c'est un érotisme qui apparaît souvent en négatif de vos grenouillades, qui est un érotisme plus obscur. Vous représentez d'ailleurs régulièrement des femmes dénudées, aguicheuses, mais cadavériques. Et là, au-delà de Klimt et Schiele, j'ai pensé à Matthias Grunewald et au tableau Les Amants Trépassés, qui est exposé à Strasbourg, qu'on a longtemps attribué à Matthias Grunewald, qui est de Cranach, c'est un couple nu, décharné, presque putréfié, où il y a des serpents qui parcourent leur corps, un crapaud sur le sexe de la femme. Est-ce que c'est une image que vous avez vue et qui vous a marqué, ça?
Non, cela, je ne l'ai découvert que plus tard. Mais quand même, on retrouve l'érotisme pratiquement un peu partout dans tous mes livres. Par exemple, j'ai fait un livre sur la mort qui s'appelle Rigor Mortis. Et là, c'est vraiment la juxtaposition entre la vie et la mort. N'est-ce pas? En fin de compte, le sexe, c'est la vie. Et je dis toujours qu'en fin de compte, un orgasme, c'est une lucarne sur l'éternité. Quand on a, lorsqu'on a un orgasme, on connaît pendant quelques secondes ce que pourrait être l'éternité, en fin de compte.
Et donc vos femmes cadavériques et en même temps nues, c'est un appel à jouir maintenant, c'est le memento mori?
Oui, c'est ça, oui, c'est vraiment dans cette tradition rhénane. Je suis imprégné par la tradition rhénane de Holbein, vous savez, Dürer, toute cette chose-là, les danses de l'amour, etc. Et évidemment, ces deux éléments se mélangent, parce qu'on dit bien aussi de l'orgasme que c'est la petite mort. C'est la petite mort. Bon, et alors, je dois dire que j'ai vraiment poussé les choses quand même. Je me suis toujours intéressé aux extrêmes. Et j'ai sorti, comme vous parliez tout à l'heure, des anges gardiens de l'enfer, des Schutzengel der Hölle. Et c'est à Hambourg, chez Domenica. C'était vraiment l'impératrice de la prostitution. Je dois dire personnellement, je n'ai jamais payé ou couché avec une prostituée. Je n'aime pas le mot putain. Je trouve que c'est dérogatif. Et j'ai donc vécu au bordel. J'ai vécu au bordel là-bas et c'est dans la Herbertstrasse. Je suis vraiment pour la prostitution, mais tant qu'il n'y a pas de souteneur. Or, dans la Herbertstrasse à Hambourg, c'est vraiment la rue fermée. Et toutes les femmes qui travaillent, ce sont des femmes qui opèrent leur propre bordel. Et ce sont les femmes qui travaillent là, ce sont des femmes sans souteneur. Et dans chaque bordel, il y a une ou deux dominas qui ont donc leur salle de torture. Et c'est ça ce qui me passionnait. Et je dois dire que là, sur le niveau des costumes en cuir, j'ai encore de Tina qui a pris sa retraite pour devenir psychothérapeute. Elle m'a laissé un de ses costumes. Mais j'avais calculé qu'il fallait 1 heure et 10 minutes pour le mettre. Vous savez, avec toutes les petites, avec tous les petits lacets, avec tous les petits trucs, etc. Et ensuite, ce qu'il y a d'étonnant, c'est de ces femmes, c'est on se dit toujours, c'est le début de mon livre, qu'est-ce qui est normal, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est normal? Ces femmes ne sont jamais touchées par le client, donc on ne pourrait pas dire qu'elles sont des prostituées, ce sont plutôt des infirmières. Elles sont là que pour appliquer la douleur, n'est-ce pas? Et alors là, elles accommodent leurs clients. En général, ce ne sont pas des clients de passage, ce sont des clients qui reviennent régulièrement. Je me rappelle Astrid, avait un jeune homme qui ne venait que deux ou trois fois par an, et je vais vous expliquer pour ça, parce qu'il pouvait avoir un orgasme, il venait avec une paire de tenailles. Il ne pouvait avoir un orgasme que si on lui arrachait un ongle. Alors évidemment, avec quand on a que 10 doigts, et le temps que ça repousse, n'est-ce pas, le nombre d'orgasmes est quand même limité. Mais vous savez, ces femmes-là le font, mais il vaut mieux le faire plutôt qu'avoir des gens frustrés qui ensuite assassinent une fillette dans un terrain vague. Là où le psychiatre s'arrête, ce sont elles qui réalisent ça. Je connais un autre client qui ne pouvait avoir un orgasme que si on lui clouait la langue sur un bloc de bois, par exemple. Alors là, il y a les gens ont leurs fantasmes, et il n'y a aucune raison que ces gens ne puissent pas trouver un lieu ou un endroit pour se débloquer dans un sens.
Et alors pour que vous, Tommy Ungerer, vous ayez fréquenté ce que vous appelez ces hôpitaux noirs, les dominatrices soignent par la torture, on le comprend bien, c'est parce que vous avez un côté sadien ?
Non, pas du tout. Je dois dire que je n'ai jamais assisté à une scène. Et même quand j'ai démarré, que j'ai vécu au truc, je me suis dit, non, Tommy, tu n'y arriveras pas. Mais comme tout, hein, j'ai bien appris à tuer le cochon au Canada. Alors, finalement, on s'y habitue. Et puis c'est très marrant parce que souvent toutes les femmes étaient parties dans les chambres, j'étais en bas parce que les femmes sont en devanture, n'est-ce pas? Alors souvent je recevais les gens qui venaient, les clients, je leur offrais un petit verre et j'étais le seul à passer la nuit au bordel parce que le bordel fermait quand même vers 3h ou 4h du matin. Et un jour, heureusement que j'étais au bordel parce que je me suis réveillé dans la fumée. Il y avait un dernier client qui avait jeté son mégot dans le panier à papier ou je sais pas où un panier, un truc comme ça. Je me rappelle, j'ai éteint un début d'incendie.
Vous avez sauvé les anges de l'enfer.
Oui,
mais,
justement.
Mais vous faisiez un peu le souteneur alors, Tommy Ungerer, si vous étiez le seul homme autorisé à rester avec...
Non. C'était vraiment strictement d'amitié. Et c'est comme ça, vous comprenez. Et évidemment, on a fait beaucoup de reportages là-dessus. Mais quand on vit vraiment et qu'on vraiment, je me suis lié d'amitié. C'est pas de la blague. Donc, c'est comme ça que j'ai obtenu sur ce bande enregistré... Donc tous ces témoignages. Mais alors les dessins que j'ai faits, ils sont tous au musée, mais ils ne sont que dans des grands livres de croquis. Alors ces dessins-là sont faits au moindre détail. Alors là, je me dis quand même, je sais dessiner parce que les moindres reflets du cuir, les moindres lacets, les moindres boutons, les godes michées, toutes ces choses-là. Et je suis retourné quand même faire un film aussi pour le Norddeutsche Rundfunk pour la télévision, mais ils l'ont passé à 3h du matin. Et ma femme ne voulait pas que je le montre aux enfants.
À propos d'Allemagne, je voudrais que vous nous disiez un mot d'une affiche que vous avez réalisée où on voit un petit bonhomme qui sert d'agrafe à un porte-jartel,
oui,
dont une partie est aux couleurs de l'Allemagne et l'autre partie du porte-jartel est aux couleurs de la France. Alors,
le bas est aux couleurs de la France,
absolument. Oui, oui. Et les relations franco-allemandes pour vous, Tommy Ungerer, qui vous tiennent tellement à cœur, est-ce que ça serait au fond une histoire de désir? Quand on voit cette image,
Non. Alors là, je dois dire que j'ai utilisé la femme, la sexualité, vraiment sur toutes les sauces, dans les affiches, surtout dans la satire. C'est quand même un objet essentiel, là, la sexualité. Je l'utilise constamment.
Et réconcilier les Français et les Allemands, c'est un bon moyen, selon vous?
Oui, mais je trouve. Vous comprenez, quand on fait campagne, que ce soit politique ou bien publicitaire, il faut accrocher les gens. Alors là, le truc le plus dur, plus difficile que j'avais, c'était quand même avec la SAR, où il y avait donc un festival à l'époque de la Révolution, pour la Révolution française. Et alors là, j'avais dessiné, j'ai fait toute une série sur la Révolution française. Et là, il y a Marianne à genoux, avec Napoléon qui prend Marianne par derrière. C'est vrai, parce que l'Empire, ça a été la fin de la République. Et alors, ça fait quand même un scandale.
Alors cette affiche qui s'intitule « La conception de l'Empire ».
Voilà, ça s'appelle « La conception de l'Empire ».
Ce que vous ne dites pas, Tommy Ungerer, c'est que sur cette image, on a Napoléon en tenue d'empereur, et puis on a une Marianne consentante, qui a l'air d'être très contente de ce qui est en train de se passer. Est-ce que ça veut dire pour vous que, au fond, l'érotisme tient toujours de la politique au sens plein du terme. Est-ce que faire des dessins érotiques, c'est politique?
Alors là, c'est une discussion. Alors là, c'est une colle. Hein. Là, c'est une colle. C'est presque de la glu. Hein. Là, j'ai des difficultés à répondre. Je ne pense pas. Mais quand même, je voudrais dire que l'érotisme doit être consenti. Et peut-être que c'est aussi ça dans la politique. On avait quand même une république, mais on avait Bonaparte qui est devenu Napoléon. Et le peuple adore pouvoir se fixer quand même sur un personnage. Regardez Kadhafi au début, c'était moi je trouvais ce jeune officier, oh qu'il était beau, qu'il était avec son idée de réunir les n'est-ce pas, qui aurait pensé que de ce Kadhafi on aurait finalement ce monstre. Alors, mais je pense que la République dans ce cas-là était consentante.
Et comme Kadhafi, vous avez eu vos Amazones tout au long de votre vie alors?
Vous savez, ce que je veux dire, c'est toutes les personnes que j'ai connues, c'est toujours resté en bon terme. Déjà très jeune, je trouvais un peu ridicule des copains qui tombaient amoureux complètement, aveuglément, etc. Mais il n'y a pas une femme qui soit la plus belle ou la meilleure du monde, sauf la mienne. Mais à part ça, j'ai quand même toujours évité j'ai jamais dit je t'aime. Jamais, c'est une chose que je n'ai jamais. Non, parce que je trouve que c'est que combien de mecs jouent sur l'amour pour charmer une femme et simplement pour l'avoir. Moi, je trouve que ça c'est pas réglo. Mais je suis quand même tombé amoureux de ma femme. Ça, c'est une autre histoire.
Voix nue, réalisation Anne Sécheret, François Connac, prise de son Yann Frécy, coordination Claire Poinsignon. À Voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Martin Kénéen avec Tommy Ungerer en 2012.